Et je me pose ce matin une question de définition. Vous savez, cette tentation qu'on a toujours de se définir, ne serait-ce que quand on se présente ou quand on est sommé de se présenter, comme si on se condamnait soi-même à être figé. Définir, à l'origine du mot, c'est exactement ça. C'est pas essayer d'être précis, c'est plutôt délimiter, mettre des limites. Et à l'heure où l'on s'insurge volontiers contre les murs, les frontières, les limites, on peut se poser cette question de la définition. Mon genre, ma profession, ma classe, mes origines sociales, ethniques, ma nationalité, ma langue, ma religion, ma sexualité. Un mot à chaque fois, il suffit de remplir une case ou de cocher d'une croix. Et c'est plus qu'un mot, c'est un rôle qui nous est imposé ou qui s'impose à nous, au point qu'on a fini par oublier de le questionner. Un jour, c'est le genre qui prend toute la place. Le lendemain, c'est la religion ou la nationalité. Il arrive étrangement que ces identités entrent en conflit et qu'on n'y comprenne plus rien à ce qu'on est, à qui on est. Le problème, quand on essaie de se définir, c'est qu'on met de côté la possibilité de la pluralité, de la multiplicité, de l'ouverture, du mouvement. Ce matin, je vais essayer de vous présenter quelqu'un en ouvrant de multiples horizons, en résistant à la tentation de la définition.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est une romancière qui conjugue l'identité au pluriel. 20 ans après son premier roman, Le Dieu des Petits Riens, et après des dizaines d'essais, elle revient à la fiction avec Le Ministère du Bonheur Suprême, un roman tentaculaire, labyrinthique, qui raconte la possibilité d'une utopie. Dans une Inde en pleine transformation, un pays divisé, déchiré, multiple, un pays où la pluralité est à la fois une force et la cause de tous ses maux. Bonjour Arundhati Roy.
Thank you.
Merci beaucoup d'être là. Faut-il qu'on ait toujours besoin de se définir ?
Vous savez, ce n'est pas forcément une mauvaise chose d'essayer de comprendre ce que l'on est. Mais bien souvent, cela amène à se réduire soi-même ou à réduire ce qu'est l'autre ou à essayer d'étiqueter les gens, les nommer pour qu'ils aient une seule identité.
Qu'est-ce que vous placez derrière ce mot d'identité précisément ?
I'm not sure really,
bah, je ne sais pas vraiment, parce que c'est quelque chose de très fluide, comme dans le ministère d'ailleurs du Bonheur Suprême, quasiment tous les personnages ont cette espèce de frontière incendiaire qui les traverse, la frontière du genre, de la conviction religieuse, de la caste, de l'État, de leur identité individuelle, et cette frontière, elle bouge en permanence. Par exemple, un des personnages les plus important, qui est au centre de l'ouvrage, Anjoum, elle est née en tant que garçon, elle s'appelle Aftab à ce moment-là, elle est née dans une famille chiite, et au fil de cette histoire, même si elle est un hijra, c'est-à-dire cette âme sacrée qui s'est trompée de corps, eh bien, elle va être prise, par exemple, dans le massacre de musulmans qui a lieu au Gujarat en 2002, elle est prise dans cet événement, pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle est musulmane. Et elle va en réchapper. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle est hijra, et il se trouve que tuer une hijra, justement, ça porte la poisse. Donc, alors, quelle est laquelle de vos différentes identités qui va être importante ? Celle que les autres revendiquent ou la vôtre ? Ça dépend, ça change.
C'est vrai que vous mettez la lumière sur cette communauté, les hijra, communauté transgenre qui existe depuis des centaines d'années. La question, c'est de quoi est-elle le symbole pour vous ? D'une pluralité, en fait, assumée, et pas d'un conflit, d'une opposition, ce à quoi on nous réduit toujours.
Yes, it is. I mean,
oui,
again,
c'est tout à fait ça. Anjoum, on l'a dit, elle est née dans la ville fortifiée de Delhi, cette ancienne ville qui s'appelle Shah Jahanabad, et ensuite elle va aller vivre au Wagbar, c'est la maison des rêves, et là, un groupe de hijra qui vivent dans cette communauté, et dans cette Wagbar où elle vit, il n'y a pas d'identité en particulier, à part que bien sûr il s'agit de femmes ou d'hommes chrétiens, hindous, musulmans, qui sont pour certains des hommes qui veulent rester hommes et qui veulent être vus comme des femmes, d'autres qui veulent devenir des femmes. Autant dire qu'il y a toute une série d'identités différentes dans cette communauté. C'est tout aussi complexe qu'à l'extérieur, dans le reste du monde.
Comment vous expliquez, vous, Arundhati Roy, que l'on vive dans un monde où tout doit être soit noir, soit blanc, un monde où on passe son temps à construire, en fait, des oppositions binaires, où les contraires doivent forcément s'exclure?
Well, that is a process.
Ça, c'est un processus de stupidification, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a quand même des fois où il faut trancher et adopter une posture morale ou politique relativement simple. Et c'est ce que j'ai fait, assez souvent d'ailleurs. Lorsque l'on voit la complexité, parfois, on est obligé de choisir son camp. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui se contente de remplacer, si vous voulez, l'idée de devoir prendre des décisions morales ou politiques en me disant, voilà, nous avons cet océan de complexité et nous nageons dedans. Non, parfois, j'essaie de m'y frayer une voie et parfois, je dis, telle chose est bonne ou mauvaise. Donc, c'est très intéressant de voir quand et à partir de quand on prend une position précise ou une posture. Par exemple, lorsque j'écris un roman, et c'est pas ça ce que je fais à ce moment-là.
La seule façon que nous avons de maintenir notre dignité, c'est de résister. Mais pour cela, nous, en tant que peuple, devons former une unité de combat, une armée. Ce qui passe par la nécessité de nous simplifier, de nous standardiser, de nous réduire. Nous devons nous libérer de toute notre complexité, de nos différences, de nos absurdités, de nos nuances. Nous devons nous rendre aussi butés, aussi monolithiques, aussi stupides que l'armée d'en face. Cette réduction, cette standardisation, cette stupidification nous rendra invincibles. Ce sera d'abord notre salut, puis, une fois que nous aurons gagné, ce sera notre perte. Je vous le demande, Arunda Tiroy, comment on fait pour résister à cette stupidification, comme vous l'appelez ?
Bien,
je dirais qu'il faut insister avec entêtement sur la complexité. C'est quand même l'une des choses les plus terrifiantes à l'heure actuelle. Voyez la montée du nationalisme hindou actuellement, ce qu'on appelait la safranisation de la société, la couleur safran de cette société que l'on voudrait imposer, où on essaie d'avoir d'un côté l'ennemi et puis en face, bien sûr, les citoyens indiens comme il faut. Et ce qui est le plus terrifiant dans tout cela, c'est qu'au fond de tout cela, il y a quoi ? Du crétinisme. Alors le crétinisme, comment lutter contre ce phénomène ? Et bien souvent, enfin, les fascistes, qu'est-ce qu'ils ont toujours fait ? Ils ont délibérément essayé de créer le flou, enfin, d'imposer l'intelligence comme une forme d'élitisme. Mais il y a une forme d'intelligence qui consiste à être entêté, à se contenter de refuser l'idiotie. C'est tout ce qu'on peut faire, certes, mais il faut le faire. Et il faut le faire avec panache et avec beauté. Il faut le faire de manière à ce que ça soit plus, si vous voulez, séduisant que la stupidification.
Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que dans le ministère du bonheur suprême, vous décrivez, mine de rien, la formation d'une drôle de communauté, une communauté sans dogme, composée d'une hijra, d'un intouchable qui se fait passer pour un musulman, de mendiant, d'hindou, une communauté sans communautarisme. Est-ce que c'est possible, ça, Arunda Tiroy, ou est-ce que c'est utopique ?
Vous savez, en définitive, c'est comme ça que les gens ont existé, d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est toujours possible. Il faut que nous en soyons convaincus que c'est toujours possible. Et ce qui se passe dans le ministère, ce n'est pas de l'utopie, parce que ce sont là des gens qui sont brisés, mais pas suffisamment brisés pour perdre leur sens de l'humour ou de la survie ou le sens des affaires, qui continuent de vivre en dehors de cette grille. Souvent, les gens disent ce sont des hors-castes ou des inadaptés, des ratés, des misfits. Et ça n'est pas vrai. Ce ne sont pas des gens qui sont hors caste, c'est des gens qu'on a extraits du système de caste. Et ce ne sont pas des ratés. Et c'est un lieu où, si vous voulez, les gens qui sont abîmés viennent se rafistoler. Mais ils n'abandonnent pas parce que leur sens de l'humour et le fait qu'ils sont un peu excentriques fait qu'ils ne vont pas laisser tomber. Et ils ne survivent pas dans l'utopie pour autant. On s'inquiète pour eux, on se dit, mais ça va durer combien de temps ? Ils vont rester à flot combien de temps, ces gens-là ? Et en même temps, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils brouillent les lignes. Vous vous rendez compte, Anjoum arrive donc dans un cimetière qu'elle va va réorganiser, elle en fait la Janat Guest House, qui organise à sa fois un accueil pour les personnes et des obsèques, un service funéraire. D'ailleurs, dans chaque chambre, il y a, devinez quoi, justement une sépulture. Et là aussi, ils ont un peu brouillé les lignes entre les castes, les genres, les vivants, les non-vivants. Il y a cette espèce de possibilité de ne plus pouvoir briser quelqu'un qui, justement, a effacé les frontières, toutes les portes s'ouvrent, voire illégalement parfois. Les gens viennent, repartent, les âmes viennent et repartent, elles aussi.
Celle qui brouille toutes les lignes dans cette émission et qui est entièrement dans l'utopie, vous la connaissez peut-être, Arunda Tiroi, c'est la culture et son actualité et qui chaque jour rêve d'un monde meilleur. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 16 janvier ? Touchous sur l'humour, c'est aujourd'hui que débute la 21e édition du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Rendez-vous au sommet du rire sur grand écran, sous la présidence de Franck Dubosc. On attend notamment Une voisine si parfaite, de et avec Sophie Marceau, Le retour du héros de Laurent Tirard, qui marque le retour surtout de Jean Dujardin à la comédie, et l'avant-première des Tuches 3, des frettes. Ode to Dolores, madone gaélique, chanteuse à yodel du groupe irlandais The Cranberries. Dolores O'Riordan est morte hier à Londres. Elle avait 46 ans seulement. Si les tubes Ode to My Family, Just My Imagination et bien sûr Zombie resteront les hymnes pop-rock d'une époque entière, on se souviendra aussi malheureusement des prises de position pour le moins problématiques de la chanteuse sur la peine de mort ou sur l'avortement notamment.
Au début, j'ai écrit par amour de l'écriture, puis après j'ai écrit pour l'argent et l'écriture. Puis maintenant, voilà, j'ai écrit à nouveau maintenant par amour de l'écriture. J'aime ce que je fais.
Penn, capitale pour le King, la très prestigieuse association Penn a révélé hier que Stephen King recevra le Penn America Literacy Service Award pour l'ensemble de son œuvre en mai prochain, un prix qui récompense des écrivains acclamés par la critique, plébiscités par le public et dont l'œuvre permet de mieux comprendre la condition humaine. Parmi les anciens lauréats, on trouve par exemple Salman Rushdie, J.K. Rowling ou Philip Roth, que des boss.
Tout est blanc, défoncé.
Étienne, tiens-la bien, ta victoire d'honneur. Étienne Dao va se voir décerner un prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière lors de la 33e cérémonie des Victoires de la Musique le 9 février prochain. Une décision qui explique l'absence de nomination de son magnifique album Blitz, sorti en novembre. Pour l'occasion, l'auteur de Weekend à Rome a annoncé qu'il préparait une surprise. Allez là ! La grande auteure indienne Arundhati Roy, invitée de Boomerang ce matin pour son impressionnant deuxième roman, Le Ministère du Bonheur Suprême, 20 ans après l'événement qui a été son premier roman, Le Dieu des Petits Riens. Entre-temps, il y a eu des essais, évidemment, des engagements militants. À un point même, on a pu croire que la militante avait pris le dessus sur la romancière. Pourquoi est-ce que vous êtes revenue à la fiction ?
Never went away.
Mais vous savez, je n'ai jamais vraiment quitté la fiction. C'est juste, j'ai travaillé pendant 10 ans sur ce livre. Mais les romans que j'aime écrire, ce n'est pas, si vous voulez, du pré-mâché ou des aliments pour nourrissons prédigérés. Pour moi, le roman, c'est la construction soigneuse d'un univers. Et ces 20 années où j'ai écrit des essais politiques, je voyageais, j'ai rencontré toutes ces couches de ce monde dans lequel je vivais. Et ces couches se sont, si vous voulez, accumulées en moi, comme si j'étais une roche sédimentaire. Un petit peu. Et j'avais commencé à écrire des romans. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de plus beau, à mon avis. Rien ne me donne un tel plaisir dans l'écriture, mais je ne suis pas une rapide. Je ne travaille pas très vite et d'ailleurs, je n'ai pas de raison particulière de produire de la quantité. Moi, j'aime vivre avec ces personnages, Ajum, Saddam Hussein, tous ces personnages. J'avais envie de les connaître mieux, de les rencontrer. Je voulais m'assurer qu'ils étaient prêts et que j'étais prête aussi à ce qu'ils fassent leur entrée dans le monde.
Quel est pour vous le pouvoir de la fiction, Arundhati Roy ?
Mysterious.
Il est mystérieux. Comment dire ? Peut-être que je préfère ne pas savoir.
Est-ce que vous pensez qu'elle peut parvenir à consoler, à soigner, comme le croit l'un des personnages de votre roman, à propos de la poésie ?
Ah oui, je pense que oui.
En fait, c'est le plus...
Je dirais que c'est la chose la plus merveilleuse. Sachez que ces derniers jours, j'ai reçu pas mal de courriers, des lettres qui me consolent, qui consolent l'écrivain et qui brisent le cœur aussi parfois. Vous voyez, il y a un moment dans le livre, et qui est d'ailleurs une histoire vraie, hein, bien sûr, qui s'est passée au Cachemire. On parle de ce jeune Norvégien qui est allé au Kerala pour apprendre la danse Kathakali et qui s'est rendu au Cachemire, qui a été enlevé et qui a été décapité. Or, sa mère a lu le livre récemment et elle m'a écrit... Et c'est une forme de consolation, si vous voulez, que l'on trouve dans la compréhension de tous les autres fils narratifs qui ont mené à cet événement. Mais ça a été douloureux de recevoir ce courrier de la mère d'Hans Christian Hans qui est mort au Cachemire, décapité. C'est tellement triste de devoir écrire cela pour une mère. La complexité de la fiction, c'est ça, je crois, qui me console.
Et de quoi vous avez besoin d'être consolé? Vous.
Everything.
De tout.
I mean, when you live in India, you see.
Lorsqu'on vit en Inde,
horror every day.
On voit l'horreur quotidiennement qui vous saute au visage.
I don't even know what's right.
Moi, je ne sais même pas, si vous voulez, à titre personnel, ce qui est bon, ce qui est juste et comment vivre les choses. Alors, j'en parle, j'écris sur les choses. Ensuite arrive la notoriété et puis bon, mes livres se vendent bien, donc l'argent est présent. Et pour moi, c'est important de déployer autour de tout cela. Mais comment le faire? Comment le faire bien? Trouver ces petits chemins de traverse pour trouver le bonheur par moment au milieu de cette tristesse. Et je crois que tout le monde, tout un chacun, privilégié ou non, a besoin de trouver consolation pour un certain nombre de choses. C'est de la folie ce qui se passe.
Ce livre, vous le dédiez à tous les inconsolés.
Mais oui, parce que je pense que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous des inconsolés. Et pour moi, l'un des beaux personnages du livre, c'est Hazrat Sarmad. C'est un saint, et cet homme-là, c'est un marchand juif arménien qui s'est rendu en Inde il y a ça, 3 siècles. Il suivait l'amour de sa vie, un jeune garçon hindou. Et après, donc, il est devenu ce fakir nu qui déambulait dans les rues de Delhi et qui récitait des poèmes sur l'amour. Et d'ailleurs, il s'est converti, il est devenu musulman avant de renoncer à l'islam en disant qu'il recherchait Dieu. Et il a été décapité ensuite par le roi Aurangzeb. En tout cas, pour moi, c'est vraiment le saint des inconsolés, cet Hazrat Sarmad. Il refuse que la boucle soit bouclée, que le cercle soit refermé. Il est celui qui ne veut pas que les gens soient définis. Il est un peu, si vous voulez, la petite bernique ou le bigorneau qui s'accroche sur le rocher contre le courant et contre la marée. Et il est le saint, je dirais, des inconsolés.
À propos de saint et de Dieu, il y a un de vos personnages qui, à l'adolescence, considère Mick Jagger comme un dieu. Le dieu de quoi, Arundhati Roy? Et si Mick Jagger est un dieu, surtout, à quoi ressemblerait la religion qui lui serait associée?
Well, he's in some ways.
Alors, he's a trans. Ce personnage, c'est un trans à sa manière, lui aussi. Il fait partie de l'État. Il travaille pour le renseignement, et est un haut gradé, et ça c'est la moitié de lui. Et puis l'autre moitié de lui, c'est l'amant malheureux. Et il se voit en permanence comme un raté, ce qui est tout à fait charmant en un sens. Et lors d'une joute oratoire, d'un débat, où il devait dire est-ce que Dieu existe, qui est pour, qui est contre, il avait perdu la joute oratoire à l'époque. Et il disait à ce moment-là, ah mais si seulement j'avais dit que c'était Mick Jagger qui était Dieu, j'aurais peut-être gagné le débat, le roi du rock, le dieu du cool.
On va écouter alors Rhonda Tiroi, Mick et les Rolling Stones, cette chanson de 1967 que vous vénérez, je le sais. Elle s'appelle Ruby Tuesday parce qu'on est mardi, parce que vous êtes sur France Inter avec Rhonda Tiroi et que vous écoutez Boomerang.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Pas bien grande, hein, et pourtant il y a quelque chose d'immense qui se dégage de sa personne. On est quelque part entre la montagne aux neiges éternelles, le chêne millénaire et la pluie, un jour de canicule, avec son chemisier beige ce matin. La romancière Rhonda Tiroi, invitée de Boomerang pour le ministère du bonheur suprême, un roman où vous dressez un portrait sans phare de l'Inde, des guerres entre communautés, des scandales écologiques et politiques. Comment votre livre a été reçu en Inde?
Well, I was, I mean, to be honest with you, you know, all the time
je,
I was writing.
Je vous avouerai que pendant que j'écrivais, en permanence, je me disais, alors, écris ce que tu as écrit et puis garde-le dans ton tiroir. Surtout ne le publie pas. Parce qu'il faut bien voir qu'à chaque fois que je fais quelque chose, ça finit mal pour moi. Et alors ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau.
Mais pourquoi, Rhonda Tiroi, est-ce que votre vision dérange tant? Pourquoi est-ce que la vérité est si dérangeante, comme le disait James Baldwin, que vous citez dans votre livre?
It's against the rising tide.
Mais si vous voulez, ça va à l'encontre de cette vague qui monte, celle du nationalisme, qui dérange parce qu'on ne peut pas classer, on ne peut pas classer ce que je dis, on n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne peut pas ghettoiser ce phénomène. Lorsque le livre est sorti, je n'ai rien fait de particulier, de promotion, je l'ai posé, je suis partie en espérant que, puisqu'il était publié dans un grand nombre de pays, probablement l'attention dont je ferai l'objet allait me protéger d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui s'est passé en un certain sens, puisque ça se passe très bien, le livre est là. Je sais que je ne devrais peut-être pas le dire, mais c'est vraiment un très grand plaisir de voir qu'il est piraté, vendu sous le manteau ou sur le trottoir. Il est là.
Ce que ça dit aussi, c'est que l'écrivain peut être dangereux.
Well, I think that we should take comfort from.
Ben, je pense que c'est plutôt rassurant. Malheureusement, les écrivains, de plus en plus, sont des gens, si vous voulez, qui sont au cœur du marché. Et ils sont dans une zone de confort de plus en plus. Ce sont les gens qu'on invite souvent à créer des produits. Alors que moi, je pense que si on peut résister à cette tendance, enfin, si je devais donner un conseil aux écrivains, je dirais continuez à être dangereux.
Il est question de regard dans votre livre « Le ministère du bonheur suprême » Arundhati Roy. Les touristes passent devant nous sans voir que nous sommes là, à nous battre pour un monde meilleur dans ce zoo de la démocratie. Les étrangers ne voient que ce qu'ils veulent voir. Qu'est-ce que les touristes ne veulent pas voir en Inde ?
Ce qu'ils ne veulent pas voir ou ce que nous ne voulons pas leur montrer. Je ne sais pas si c'est forcément la même chose d'ailleurs, mais vous savez, autour de l'Inde, on a fait tout un marketing, démocratie, avec le yoga, Gandhi, Bollywood.
Pourtant, la misère est aussi devenue un spectacle.
La misère est un spectacle parce que souvent, les gens qui font, si vous voulez, le marketing de la politique identitaire voient la pauvreté comme une identité, pas quelque chose qui aurait été produit par une machine qui a œuvré pour produire cette idée-là. Alors qu'en fait, ce qui est vrai, c'est que c'est difficile, notamment pour les Occidentaux, de percevoir le fait que l'Inde est une société hiérarchique avec une grille de caste qui est brutale. Et les intellectuels, les écrivains indiens, tout le monde, quasiment tout le monde, provient de castes qui, justement, n'ont pas envie de parler de ce phénomène. C'est terrible et c'est très malhonnête, je dirais. Alors, je ne peux pas m'en prendre aux touristes. Je crois que là, en l'occurrence, la faute est de notre côté.
Je pense à un autre extrait de votre roman Arundhati Roy. Alors que le cortège abordait le virage du portail du cimetière, une mêlée de journalistes frémissant tels des athlètes dans leur starting block rompit les rangs et se précipita dans le cimetière. On déposa les cercueils ouverts, alignés sur la terre gelée. La foule s'ouvrit respectueusement devant la presse. Sans les reporters, les photographes, elles le savaient, le massacre serait effacé de la mémoire publique et les morts vraiment morts. Dans un mélange d'espoir et de colère, on leur offrit donc de voir les corps, banquet de morts, leur chagrin serait archivé. Qu'est-ce que vous trouvez obscène, Arundhati Roy ?
Ce que je trouve obscène, c'est l'idée, par exemple, qu'en Inde, on parle beaucoup, la gauche parle beaucoup, en l'occurrence, de la démocratie, de l'oppression, de tout cela, et sachant que dans le même temps et en permanence, il y a des agressions au Cachemire, où des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes ont été exécutées, tuées. Et pourtant, cela, si vous voulez, n'est pas inclus dans tout le débat politique. On n'en parle pas parce que ça met les gens mal à l'aise. Alors, là encore, je pense que cette forme de malhonnêteté relève de l'obscène. Les gens en Inde, la gauche en Inde, est ravie de parler de la Palestine, mais pas du Cachemire.
Et l'oubli, est-ce que vous le trouvez obscène aussi ?
Cela dépend de l'oubli, de comment on oublie et pourquoi on oublie. Si une chose oubliée a été résolue, il faut l'oublier, il ne faut pas la retenir, il faut la laisser partir. Mais lorsque quelque chose n'a pas été résolu, voyez par exemple ce que je trouve très triste, c'est que toutes les sociétés sont injustes, c'est une évidence. Mais je dirais qu'il y a quand même une évolution vers la justice, en tout cas un certain idéal de justice. Comment est-ce qu'on pourrait avoir une société plus juste? Pour autant, dans certaines sociétés, notamment en Inde, on va plutôt dans la direction opposée. Ça, c'est terrifiant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette dynamique, cette volonté de penser que la justice est un bien. Vous voyez, le système des castes, par exemple, est institutionnalisé, c'est une injustice institutionnalisée.
Alors où trouvez-vous le bonheur, Arundhati Roy, quand il n'est pas forcément présent ? Je vous pose la question parce que le titre de votre livre, Le ministère du bonheur suprême, m'invite à le faire.
Space
Vous savez, l'espace, on ne vous le donne jamais. La place, on ne vous la donne pas. Il faut la prendre. Et les personnages dans le ministère du Bonheur Suprême, ils le prennent, cette place. Et je pense que c'est très important de prendre sa place parce que personne ne va venir vous donner une place. Et pour ces personnages, c'est ça, la lutte. Et la lutte, ce n'est jamais une lutte pour être malheureux, c'est une lutte pour essayer d'améliorer son sort. Et pour moi, à titre personnel, le roman, c'est le bonheur suprême.
Merci infiniment à Honda Tiroy d'être venue faire un tour dans Boomerang. Merci à votre interprète ce matin, la formidable Hélène Joguet. Le ministère du bonheur suprême, dans une belle traduction d'Irène Margy, est publié chez Gallimard. C'est impressionnant, intransigeant, lumineux. C'est important de le préciser. C'est évidemment dans notre liste de rentrée France Inter JDD. Tout de suite les médias. Sonia De Villers, juste après ça. Charlotte Gainsbourg sur France Inter. Tout de suite, c'est Sonia De Villers, les médias, à l'instant même.
Et d'un seul coup, vous aviez un petit peu la voix de Charlotte Gainsbourg.
Quoi,
Augustin?
N'importe quoi. Là, ça va plus, là. On est mardi, Sonia.
Hein, salut, Augustin. Allez, à demain. Mercredi, donc.
Salut.